Et nous sommes en présence de Philippe Ariagno, directeur du théâtre La Passerelle à Gap, scène nationale. On va faire un petit point, tiens, sur le taux de fréquentation et de réussite de ce Tous dehors. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu entre-temps. Alors un petit bilan plutôt positif, Philippe.
Complètement positif en termes de fréquentation, malgré la pluie du dimanche qui nous a obligés à annuler 6 représentations sur les 9. Il y avait quand même des gens qui sont venus le dimanche sous la pluie, donc ce qui prouvait qu'ils en avaient vraiment envie. Non, on a dépassé la barre des 20 000 spectateurs. Je l'avais annoncé en prévision en disant on est à 13-14 000 cette année, on sera autour de 20 000 en 2016. C'est ce qui s'est passé, donc il y a bien cette montée en puissance, en tous les cas, de la fréquentation publique, et puis des gens qui viennent de plus en plus loin. Donc ça, je le répète, je le dis et le répète en permanence. On a de l'or dans les mains, il faut que et les pouvoirs publics, mes partenaires publics et partenaires privés qui sont mis sur cette histoire-là, voilà, aient envie maintenant d'une montée en puissance et de pérenniser cet événement que vraiment les gens attendent, les publics de toutes les Hautes-Alpes et au-delà attendent comme un rendez-vous là, de début d'été, on va dire, le bouquet final de la saison de La Passerelle, mais pas que, ça devient le festival de la ville de Gap, donc c'est parfait, non. Voilà, la seule inquiétude, le bilan est extrêmement positif, positif. L'inquiétude, c'est chaque année, je dois me poser la question, est-ce que je peux recommencer l'année prochaine, puisque le montage financier a été compliqué en 2016, mais on va tout faire pour, en tous les cas, et essayer de convaincre les partenaires de continuer la belle histoire.
Justement, vous pouvez rassurer donc les auditeurs qui nous écoutent actuellement, il y aura un festival Tous dehors, 5 ans déjà, comme le temps passe vite, c'est une date anniversaire, on pourrait dire.
Oui, c'est bien que vous le souligniez, parce que c'est vrai, c'est le premier petit anniversaire, 5 ans, et c'est important, c'est peut-être le moment de marquer à nouveau un grand coup, passer une marche d'escalier en plus, il faut que j'embarque encore les gens, mes partenaires, mais oui, c'est 5 ans, c'est pas rien, c'est à la fois rien, puisque 5 ans c'est tout neuf encore, et c'est déjà beaucoup, vu les difficultés financières pour monter un tel événement, donc voilà, je pense qu'on peut tous être fiers de cette chose-là qui naît sur Agape et dans les Hautes-Alpes, et voilà, on va essayer de fêter dignement ce premier anniversaire de 5 ans.
Et toute autre chose, et quelle chose, c'est le gros, on va dire, de votre saison qui va débuter, si je ne m'abuse, le jeudi 6 octobre, avec encore moult spectacles, on pourrait dire, qui tapent un peu dans tous les médias, on pourrait dire. Et là, c'est Feu, justement, c'est un bon titre, coup d'envoi, Feu Chatterton, Feu Théâtre La Passerelle. Alors, c'est eux qui vont ouvrir cette saison avec plutôt du rock teinté de poésie, c'est ça?
Oui, c'est moi. Enfin, franchement, Feu Chatterton, je les ai découverts il y a déjà 2 ans, quand ils ont commencé sur leur premier. Ils avaient fait un premier titre qui s'appelle La Malinche, qui est maintenant devenu un peu leur tube. Moi, je suis très très content. Ils sont effectivement nommés aux Victoires de la Musique 2016 dans la catégorie Révélation Scène. Donc, c'est vraiment des gens à voir sur scène. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un groupe qui est entre chansons françaises, rock, bien sûr, et poésie, j'allais dire littérature, mais c'est exactement ça. C'est un peu les fils spirituels de Bachung. Ils sont très inspirés par des Brel, des Brassens, des Trenet ou des Barbara. Le chanteur Arthur Teboul dit lui-même qu'il essaie de. Il truffe en fait ses textes de sens caché pour être à la hauteur de ces gens-là. Donc c'est vraiment un rock lettré, magnifique. On passe de choses très groove, très dance, parfois, enfin, qui bougent bien, à des moments de poésie pure. Hein. On sait entre La Malinche, qui est bien dansant, Boeing aussi, et qu'on passe La Mort dans la Pinède, ou Concordia, toutes ces choses-là sont vraiment des. Ouais, c'est un univers incroyable. Moi, je trouve que c'est un renouveau. En tout cas, c'est un endroit rare de la chanson française rock, on va dire, avec cette énergie rock. Ils sont très empreints de romantisme aussi, puisque Feu Chatterton, c'est pas l'homonyme ou c'est pas l'album de Chatterton de Bachung. Hein, Thomas Chatterton était un jeune poète, en fait, au 17e, qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans, ou chose comme ça, ou pas au 17e, au 18e, et qui était un peu une figure du romantisme. Et voilà, c'est un rock empreint de romantisme, d'onirisme lyrique, une belle énergie, enfin vraiment, et à voir sur scène, c'est assez incroyable, dans leur côté un peu vintage, très théâtral, un peu dans 5 dandys, là, qui manient les guitares autant que les mots, donc c'est bien.
Autre chose qui est bien aussi, qui marque un peu les signes de caractère du théâtre La Passerelle, c'est une balade acrobatique intitulée Sur ton dos. Alors, c'est ça aussi que vous privilégiez, c'est-à-dire les lieux naturels. Et nous sommes bien entourés avec des spectacles, tantôt d'acrobatie, circassien aussi, pourquoi pas, et de poésie, peut-être quelques mots sur ton dos.
Oui, alors ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les curieux de nature. Donc, vous l'avez dit, c'était des commandes faites à des artistes de créer un geste poétique et artistique sur les espaces naturels en lien avec le patrimoine ou en lien avec les habitants. Hein, ça peut, l'un n'empêche pas l'autre. Et là, on a demandé à un duo de portée acrobatique qui était déjà prévenu dans la saison avec un duo absolument somptueux, fulgurant, qui s'appelait Nous, une double soirée cirque. Et donc, en voyant un film qu'ils avaient réalisé dans la nature, on s'est dit, mais eux, il faut leur proposer un curieux nature. Et ça se passera à la Petite Céuse, dans une randonnée assez incroyable où on découvrira, en gros, une nouvelle espèce. On verra d'abord ces gens à la jumelle, de loin, qui vont se rapprocher petit à petit, jusqu'à un face-à-face final sur la crête de la Petite Céuse. L'endroit est magnifique, c'est aérien au possible, ça sied parfaitement à leur travail. Donc voilà, les curieux de nature, c'est un peu une relecture de nos paysages par des artistes qui ne connaissent pas, qui viennent, qui découvrent, qui s'imprennent des endroits. Et c'est, vous le savez, combien nous, il est important, et pour que les gens qui nous écoutent le savent, c'est qu'en fait, on essaie de faire vraiment des contrastes entre toutes les disciplines. On essaie de multiplier les formes de confrontation artistique. On s'ennuie jamais finalement. Que ça soit frontal, que ça soit autour de l'artiste, en pleine nature. Ça, c'est primordial pour moi. C'est-à-dire montrer l'art sous toutes ses formes, toutes ses facettes, dans des choses au lointain ou en très grande proximité. Voilà, la richesse de la création d'aujourd'hui est là pour nous aider à concocter des formes de confrontation absolument infinies, et c'est ce qui est vraiment, vraiment jubilatoire.
Et cette balade acrobatique aura lieu et va se déployer sur deux sessions, deux journées, samedi 8 octobre à 17h et dimanche 9 octobre à 11h à la Petite Céuse. La disparition, alors ce qui est bien aussi au Théâtre La Passerelle, c'est qu'on peut découvrir aussi des auteurs et des metteurs en scène, parfois obscurs, mais qui n'empêchent pas le talent.
Oui, bah ça vous fait allusion au rendez-vous de la disparition du Béga Théâtre. Alors ça, c'est des gens qu'on a reçus dans le cadre du Tous Dehors avec un spectacle qui s'appelait Histoire Cachée. Les gens s'en rappelleront sûrement en nous entendant, parce que voilà, ça avait très très bien marché. Alors c'était une déambulation avec des groupes de 20 spectateurs à la fois. Là, c'est encore plus individuel, on va dire que c'est un départ à peu près toutes les minutes et demie, je ne me rappelle plus maintenant, à peu près. Et on est tout seul. C'est à peu près entre 3 et 5 minutes. On est tout seul avec un casque et avec un smartbook dans les mains. Et on part en fait dans une enquête policière sur la disparition d'une auteure qui s'appelle Carlotta Valdés. On ne sait pas bien si c'est qui est auteur de romans policiers. Son éditeur est désespéré parce qu'elle a disparu. Et en fait, on part dans cette enquête à travers la ville avec des indices que l'on trouve au coin de rue, dans des caves. Voilà, tout un parcours extrêmement intéressant. Et pour essayer de comprendre si ce n'est pas Carlotta Valdés elle-même qui a orchestré sa disparition, si elle a été enlevée ou si vraiment elle a été assassinée, on ne sait pas vraiment. Donc on part dans la ville et tout d'un coup, avec les indices qu'on a, les sons qu'on a dans les oreilles, on a un smartbook qui nous guide dans la ville, où on voit des images qui nous amènent dans des endroits assez incroyables, finalement tout devient suspect autour de nous. Même les passants, on est un peu inquiet, on dit tiens, mais celui-là, il a l'air bizarre, ou cette dame avec son cabas, tiens, c'est bizarre. Enfin voilà, c'est tout un truc. Donc on part vraiment, on plonge dans un espèce de roman policier au sens propre du terme, physiquement, de manière sonore, et ça va se passer dans la ville de Gap. Ouais, c'est assez extraordinaire leur travail, hein. C'est vraiment, c'est une belle, très très belle chose. Et chaque spectateur est invité à trouver remonter les indices et éventuellement résoudre l'énigme de la disparition de Carlotta Valdés.
Et si vous avez un petit côté Sherlock Holmes dans votre ADN, eh bien sachez que vous pourrez vous déployer donc pour cette déambulation urbaine et mystérieuse le vendredi 14 octobre de 15 à 17h, ensuite une autre session de 19 à 21h et le samedi 15 octobre de 10h à midi, ensuite de 14 à 16h et puis tant qu'à faire de 18 à 20h. On poursuit avec danse et musique indienne et là aussi un bon coup de fraîcheur. On pourrait dire à travers le monde, on voyage tout en restant dans les Hautes-Alpes, et c'est la particularité de l'IACAM.
Oui, alors ça, on avait commencé, on parlait de Sur ton dos tout à l'heure. Nous, on a, peut-être qu'on peut faire un chapeau un peu général qui s'appellerait la passerelle par monts et vallées. Donc, il y a effectivement les curieux de nature. Il y en aura trois cette année, cette saison. On a parlé de Sur ton dos tout à l'heure. Et les excentrés, pareil. On a dans l'idée, l'envie, nous, d'aller à la rencontre des publics, des gens qui n'ont pas forcément le réflexe ou par qui sont un peu plus éloignés de Gap, ne viennent pas dans nos murs. Même si ça devient de plus en plus rare, hein. Les gens généralement font les allers-retours. Donc trois excentrés l'année prochaine, et on commence par Liakam, effectivement, qui est une danseuse, on va dire, traditionnelle de Bharatanatyam, qui est indo-européenne, indo-française. Elle a ses racines évidemment en Inde, et elle nous propose une plongée dans cette danse indienne absolument incroyable. Mais c'est pas de la danse traditionnelle, c'est pas de la musique traditionnelle, c'est un peu entre. Il peut y avoir, ça part très vite vers des choses assez danse assez contemporaine. Ça peut partir vers le jazz au niveau musical, puisqu'elle est entourée de musiciens qui jouent en direct, ou ça même vers le flamenco, parce qu'elle dit que le flamenco a ses origines déjà en Inde. Voilà, donc c'est un très beau travail qui nous plonge dans cette gestuelle absolument incroyable de cette danse traditionnelle indienne, mais qui nous tire vers d'autres univers, et finalement qui reflète assez bien toutes les influences de cette jeune danseuse dont le nom m'échappe là maintenant, mais vous le trouverez très facilement sur le programme. Elle s'appelle, voilà, Jessie Vera, hein, qui est donc la chorégraphe et l'interprète, et voilà, qui nous propose. Moi, j'aime bien ces spectacles finalement où qui mettent en valeur toutes les influences qu'on peut avoir au contact des cultures des autres, parce que c'est quand même ça. Quand dans nos têtes, on n'a pas de frontières et qu'on s'inspire de plein de cultures différentes, ben, ça donne des choses fortes, ça donne des choses de notre monde qui nous ressemblent, et c'est très très bien.
Laissez-vous envoûter par le jazz flamenco, donc comme le dit Les Excentrés, ce sera en plusieurs lieux et en plusieurs dates, lundi 17 octobre, 20h30 à Chabot, ensuite mardi 18, 20h30 à Chorges, mercredi 19 octobre, 20h30 à Embrun, et le 21 octobre à Veynes avec les partenaires, hein, Bistrot. Comme il est de coutume, passons à Dites à ma mère que je suis là. Alors, c'est du cirque engagé. Comment peut-on définir du cirque engagé, Philippe Ariagno?
Alors ça, c'est un projet qui nous tient bien à cœur. C'est un projet qui a été, on va dire, sélectionné dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Tridance, qui réunit quatre structures de la région PACA. Et chaque année, ces structures se réunissent pour choisir une compagnie, quelque chose qui soit une compagnie qui travaille avec la danse, évidemment. Et qui est une création, chaque lieu recevant ce spectacle. Voilà, Dites à ma mère que je suis là, en fait, c'est le collectif État d'urgence. Il porte assez bien son nom, puisque le thème dont il s'empare cette année, c'est les migrants. On sait ce drame, cette actualité brûlante et cette Europe bien, bien faible, bien embarrassée de tous ces gens qui viennent de pays en guerre et qui cherchent refuge, et on est incapable de leur donner. Ça pose quand même un vrai problème humain, pas que politique, mais humain, évidemment, quoi. Ces gens qui nous ressemblent, et on est. Enfin bon, je ne veux pas refaire le drame. Donc en fait, ils se sont emparés à partir de travaux, on va dire, d'une chercheuse qui s'appelle Amanda Da Silva, qui est chercheuse en migration internationale, et une immersion totale dans le camp de la jungle de Calais, parce que c'est une compagnie qui vient du Nord, hein, donc ils sont de Lille. Ils sont allés plonger un petit peu au contact des migrants, en essayant de comprendre et de nous faire éprouver finalement avec de la danse, du cirque, du théâtre et de la vidéo, ce parcours. C'est quoi ce cheminement qu'ont les migrants jusqu'à nous? Pourquoi ils partent, on le sait à peu près, mais c'est-à-dire qu'ils veulent essayer de mettre des mots, pas sur une espèce de mot global, migrant, etc., migration, etc., mais rentrer dans l'intimité de ces gens pour nous faire comprendre d'où ils viennent, qui ils sont. C'est toujours plus sensible, c'est toujours plus touchant, on va dire, de comprendre qui sont ces gens, plutôt que de dire bah, y en a 800 qui sont morts sur un radeau. Par contre, quand on commence à dire bah, y avait, je sais pas, Edith avec sa petite fille qui sont mortes, et elle était boulangère, etc. Elle est partie. Vous voyez, quand on commence à rentrer dans l'humain.
Donner une identité, en fait.
Donner une identité, rentrer dans l'intimité, on se rend compte que ces gens nous ressemblent tellement et que c'est un drame. Et du coup, c'est un peu nous faire éprouver physiquement, mentalement, avec de la matière très forte, très coup de poing. Avec, je sais, parce que j'en ai parlé avec Anthony Lefebvre, Amanda, évidemment l'idée qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel, qu'on essaie de voir comment on peut s'en emparer, et on est capable de régler cette histoire-là. Donc voilà, ça, c'est une création, donc je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, la matière est protéiforme et ça va envoyer.
Et ça va envoyer le lundi 14, mardi 15 novembre également à 20h30, côté cours, Dites à ma mère que je suis là. Peut-être un mot sur Ulysse nuit gravement à la santé. C'est un conte slamé. C'est vrai que le slam est de plus en plus démocratisé, on pourrait dire, au niveau du théâtre et puis même dans la rue. C'est plutôt de bon augure.
Oui, et puis alors c'est Ulysse nuit gravement à la santé est une petite pépite qu'on a vue à Avignon l'année au Festival d'Avignon l'année dernière. On a présenté la saison là samedi dernier en disant ben en fait que cette année-là on allait raconter aux gens beaucoup d'histoires, des histoires vécues, des histoires vraies, des histoires épiques aussi, des histoires qui plongent dans la littérature. Voilà. En remettant un petit peu l'humain au cœur de la programmation, on va dire tout ce qui, toutes ces valeurs humaines, ces sentiments humains multiples, compliqués, complexes, mais aussi tellement beaux parfois. Et là, ce récit, c'est un récit un peu épique puisque c'est la compagnie Le Cri de l'Armoire. Et d'ailleurs, quel nom qui est effectivement un conteur, Marianne Tillet, qui est conteur, qui est accompagné de Mathias Castanier, un musicien, un guitariste. Nous propose de replonger dans le voyage d'Ulysse, hein, l'épopée d'Ulysse, évidemment, d'Homère, mais peut-être sur un aspect un petit peu différent, parce que quand on parle des héros, Ulysse, c'est un héros, dans toutes les histoires qu'on nous raconte, c'est sacrément Ulysse, qui est un vrai filou, qui a plein de ruses pour le cyclope, pour les sirènes, etc. Mais en fait, Marien Tillier, qui est conteur, slameur, est très malin lui aussi, a envie de donner un autre visage de Ulysse, qui est quand même pas si sympa, puisqu'il quand même, il sacrifie beaucoup de ses compagnons, il fait attendre 20 ans Pénélope, pendant qu'il va dans les bras de Calypso. Voilà, donc c'est pas forcément le gars, le héros dont on voudrait chaque fois, nous, avec l'image qui lui colle à la peau depuis un moment donné. Donc c'est un peu renverser les choses, et c'est parler de Pénélope, parce qu'on se dit quand même Pénélope, qui est quand même la plus belle femme de Grèce, qui attend son mari pendant 20 ans, en tricotant et détricotant, vous savez, pour refuser ses prétendants. On se dit comment cette femme aussi belle, avec tellement de prétendants autour d'elle, le désir qu'elle ne peut pas ne pas avoir pendant 20 ans, comment elle ne va pas craquer Pénélope, et combien on la comprend, et on la comprendrait quand on sait ce que fait Ulysse dans son voyage. Donc voilà, c'est un peu inverser la chose, c'est presque assez féministe comme chose, mais c'est en tous les cas merveilleusement conté, c'est épique, ça le souffle de cette épopée-là. Il ne fait pas que slammer, il raconte, il dit, et il y avait une espèce de... Le musicien qui lui répond est fantastique. C'est vraiment une histoire qu'on nous raconte merveilleusement bien. Ulysse, nuit gravement la santé, est une pépite, vraiment, c'est un petit bonheur de voir ce spectacle, c'est très très fort.
Et vous n'avez pas de raison de rater ce spectacle, car il y a 3 sessions, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre à 19h côté cours. On passe à Otilibé, hein, on la connaît maintenant depuis quelques années, Otilibé. Elle fait son petit nid musical et avec son univers particulier. Et enfin, elle nous vient ici, du côté du théâtre La Passerelle.
Oui, alors ça, j'ai bien envie d'Otilibé. Nous, on est très très contents d'avoir de l'inviter sur notre plateau, puisque ça fait quelques années qu'on l'accompagne à travers des résidences, des retours qu'on peut lui faire, comme le Théâtre Briançonnet, le Théâtre Durance aussi d'ailleurs. Donc nous, on est ravis que plusieurs structures, on va dire, du coin s'emparent et essaient d'aider les artistes qui ont un vrai talent. Otilibé, quand même, c'est une chanteuse d'abord incroyable, elle a des textes magnifiques, elle a été parmi les 10 premiers albums francophones et sélectionné par France Inter et Télérama. Donc voilà, il y a vraiment du métier, il y a une vraie sensibilité, il y a un univers incroyable. Et du coup, on va la recevoir sur son projet qui s'appelle Passage, où elle a beaucoup voyagé, de la Mongolie, en passant par la Chine, je crois qu'elle est allée en Finlande, à La Réunion. Et donc du coup, Otili, de toute façon, c'est quelqu'un qui aime les autres, les rencontres, et une empathie pour l'étranger, l'ailleurs. Et du coup, elle a enregistré des sons en se plongeant un peu dans les cultures musicales un peu primitives des pays, qu'elle a enregistré, gravé, elle se sert de cette matière-là pour nous pondre cet album qui s'appelle Passage et qui va être un peu des cartes postales sonores et visuelles, parce que de toute façon, les images viendront avec nous. Voilà, donc on est très content de nous la présenter. Elle a vraiment un univers singulier. Elle pratique aussi très très bien le chant diphonique, hein, qui est un chant absolument incroyable, qui vient un peu d'une autre, de la nuit des temps, et elle pratique ça très très bien. Voilà, c'est un voyage entre musique tribale, poésie, musique d'aujourd'hui avec des textes sublimes, donc on est très content. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a deux autres, enfin il y a une autre compagnie qu'on soutient, Théâtre du Briançonnet, Théâtre Durance et nous-mêmes, c'est la compagnie du Pas de l'Oiseau aussi, avec 8h30 rue des Écoles. Laurent Hérochaume et Amélie Chamou nous proposent de travailler sur l'école. Je dis ça parce que c'est important de dire que nous, la structure Scène Nationale, et aussi a envie de regarder les artistes qui sont sur ce département et de tout faire pour essayer de les accompagner au mieux quand il y a du talent au départ, quand on sent qu'il y a des choses qui peuvent encore monter en puissance. Et la compagnie Paloiseau nous présentera à 8h30 des écoles sur le thème de l'école. On les recevra en avant-première à l'usine Badin, la création d'Aurélia Durance. Et c'est nous faire replonger au niveau de l'école, où on a été élève, on a peut-être été parent d'élève, on a peut-être même enseignant, et savoir qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans l'école. Est-ce que c'est pas l'importance de ce petit bout de république réenchanté qui serait notre société de demain? On sait que l'école est un lieu de débat passionnel, souvent presque intouchable. C'est compliqué, l'école. Voilà. Et en même temps, ça concerne l'avenir de nos enfants et peut-être de nos sociétés. Donc, ils s'emparent de ce thème-là. Et je faisais ce parallèle après avec Otili, parce que c'est aussi une compagnie locale et qu'on notre rôle aussi c'est de les accompagner. Donc 8h30 rue des écoles est un des projets accompagnés par la scène nationale.
Et ne manquez pas le passage d'Otili B vendredi 25 et samedi 26 novembre à 19h côté cours. Comme je l'entends, Benjamin Dupé, c'est un nom qui commence à être eh bien habitué, hein, à satellite un peu de du théâtre La Passerelle. Et là, eh bien, Benjamin nous revient pour cette nouvelle saison.
Oui, on a une vraie fidélité avec Benjamin Dupé, parce que bon, Benjamin Dupé, c'est un musicien compositeur de musique contemporaine. Donc évidemment, ça fait très peur quand on dit ça, mais ça fait quand même ça sera donc le quatrième rendez-vous avec Benjamin. On aurait presque dû commencer comme je l'entends, puisqu'on l'a eu avec Fantôme, Un léger roulement, et Sur la peau tendue qu'est notre tympan, qui est une immersion visuelle et sonore. On l'a eu une chose un petit peu plus compliquée, Les oreilles n'ont pas de paupières, sur le grand plateau, sur un texte de Quignard. Et puis il y a eu la création d'un curieux de nature au-dessus de Chorges, qui a laissé pas mal de traces dans nos mémoires, et de bonnes traces, on va dire, de bons souvenirs. Et là, on le reçoit avec Comme je l'entends. Alors, Benjamin Dupé, il a une particularité, c'est qu'il aime bien jouer de la musique. Il aime aussi bien parler de la musique et surtout position. Il aime bien parler de sa musique ou qu'on parle de sa musique. C'est-à-dire qu'il donne une place à l'auditeur particulière. Il faut qu'il mette l'auditeur dans un endroit qui lui permette d'entendre cette musique contemporaine, qui peut être inaudible pour certains. Et lui essaie de le en faire un véritable voyage. Donc en fait, son travail, il s'est basé sur des ateliers qu'il a fait dans des maisons de retraite, à l'école, avec des enfants, en faisant écouter des sons de musique contemporaine, sa musique, et en enregistrant tous les commentaires. Alors évidemment, on dit, oh non, mais ça, c'est pas de la musique, c'est du bruit, oh ça, oulala, moi je tiendrai pas 2 heures, je partirai bien avant, etc. Jusqu'à ce que les gens arrivent à des choses absolument incroyables, en disant, moi je me suis laissé aller, c'est un voyage extraordinaire, ça me fait plonger à l'intérieur de moi-même. Voilà. C'est tout ce que provoquent tous les mots récoltés et ce que provoque sur sa musique contemporaine. Alors il scénographie aussi sa musique, ce sera l'usine Badin. Donc pour ceux qui ont peur de cette musique contemporaine, et c'est vrai que ça peut faire peur, hein, moi j'y suis venu assez tard, et finalement en écoutant des choses, je me suis fait embarquer, c'est toujours un plaisir. Donc il joue de la guitare, il y a ces mots qui reviennent se prononcer sur sa musique. Et voilà, c'est un bon moment, c'est une bonne façon d'entrer dans cette musique-là qui peut apporter vraiment des choses étonnantes.
Et vous serez en pleine saison des légendes d'automne, et c'est bien d'écouter et d'apprécier Benjamin Dupé dans ses œuvres le mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à 19h à l'usine Badin. Passons à Où les cœurs s'éprennent. La mise en scène est signée Thomas Quillardet, et qu'on connaît aussi.
Oui, alors ça, on est content. Nous, on a des vraies fidélités avec les artistes, hein. Donc Thomas, il est venu plusieurs fois. Il nous avait montré un Goldeni, Villégiature. Il y a peut-être la première saison à 4-5 ans. Il a fait Histoire du rock aussi. Et un Curieux de nature dernièrement avec Montagne sous une prairie d'altitude là, sous Céuse. Et voilà, ça sera la seule grande création. C'est une création, hein, ça sera un grand plateau théâtre, parce qu'ils sont assez nombreux sur le plateau. Et Thomas, bon, j'aime bien comment il travaille, Thomas. Son projet nous intéressait beaucoup parce qu'il est parti de deux scénarios de Romer, le réalisateur Romer, Les Nuits de la pleine lune et Le rayon vert. Alors Romer, ça sonne pas forcément dans l'oreille du grand public, mais c'est quand même, on va dire, l'entomologiste des sentiments humains. C'est plutôt assez simple. C'est assez drôle finalement ces films, mais l'idée c'est pas de nous parler de Romer, c'est de partir de ces deux scénarios. Donc Les Nuits de la pleine lune, le scénario c'est un couple dont la femme voudrait essayer de trouver une petite indépendance à l'intérieur de son couple, s'autonomiser en disant qu'elle veut ses vendredis toute seule, elle veut prendre un petit appart en ville et avoir ses vendredis pour sortir avec ses copines, pour se sentir un petit peu libre, alors que son gars, lui, il est plutôt plan-plan et il veut pas. Donc comment au sein du couple on trouve sa propre indépendance tout en restant en couple, hein, y a pas d'idée d'aller tromper ou quoi que ce soit. Et puis le deuxième, c'est plutôt une histoire d'une jeune fille qui n'arrive pas à trouver l'amour tant elle est baignée de son idéal d'amour. Donc avant de, si on, on voit l'amour idéal, c'est compliqué de trouver quelqu'un parfois si on met un peu trop de la barre un peu haute. Puis l'amour, ça se construit peut-être au jour le jour. Donc voilà, à partir de ça, une retranscription de ces histoires-là sur le plateau théâtre qui va nous parler d'amour, évidemment, de désir. C'est quoi le désir? Est-ce que c'est quoi d'être aimé? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Voilà, tout des sentiments, à mon avis, qui parleront à tout le monde. Et puis, on sait que Thomas, il aime bien faire sortir les choses simples et plutôt assez drôles. Donc, voilà, c'est un grand plateau théâtre qui s'appelle Où les cœurs s'éprennent. J'adore le titre, d'ailleurs. Et qui va être une très belle chose sur notre grand plateau.
Et si vous êtes des amoureux, eh bien n'oubliez pas d'aller voir donc ceci, c'est le vendredi de décembre à 20h30. Passons à Sophia Aram, c'est une collègue radiophonique, hein. On la connaît, peut-être que vous la connaissez si vous écoutez France Inter, et ses chroniques pleines d'humour, acides on pourrait dire, et là elle nous vient le mardi 13 décembre à 20h30, Sophia.
Oui, alors ça, on fait pas souvent d'humoriste, hein, on peut le dire. Là, c'est One Woman Show avec Sophia Aram. Ce qui nous a paru intéressant aujourd'hui, on se dit, mais quand même, le politiquement correct, le gentillet, le consensus tout le temps, c'est un peu pénible. Et finalement, ça fait pas avancer les choses. Et en voyant le spectacle de Sophia Aram, parce qu'on a vu le fond de l'air effrayé, ça nous a paru important qu'il y ait des paroles comme ça, portées par ces petits bouts de femmes absolument incroyables, d'une élégance rare, et qui évidemment n'a pas la langue dans sa poche, qui est féroce sur les choses, mais avec un regard féroce sur l'actualité aujourd'hui. Tout ce qui la choque, c'est son point de vue à elle. Donc on compatit ou pas, enfin on est d'accord ou pas d'accord, mais elle parle de laïcité, de religion, évidemment, enfin plein de choses qui nous concernent. Et elle y va pas avec le dos de la cuillère, c'est très clair. Donc voilà, ceux qui veulent entendre un spectacle hyper bien écrit, elle nous parle des bobos par exemple, enfin les bobos, tout. Il y a plein de choses de société, des faits de société qui la choquent. Alors ces spectacles, ce qu'il y a d'intéressant, parce qu'elle passera l'année prochaine dans la saison, donc il y aura sûrement des thèmes d'actualité dont elle va s'inspirer. Donc c'est des spectacles mouvants dont elle s'inspire vraiment de l'actualité pour faire des grands coups de gueule, taper du poing sur la table et nous bousculer. Donc voilà, c'est féroce, c'est très intelligent, c'est complètement impertinent, mais tellement pertinent en même temps de ce qu'elle nous raconte. Donc ça fait du bien, c'est des paroles qui font du bien. On a besoin de ces humoristes-là dans la tradition du Bedos, finalement, hein, c'est ça.
Avec un spectacle qui évolue selon l'actualité au jour le jour.
Tout à fait, c'est pour ça que je vous disais, dans quelques temps, elle passera dans quelques mois à la passerelle. Je suis sûr qu'il y aura des thèmes qui vont aussi la bouleverser, la choquer, et qu'elle aura envie de parler de ces thèmes-là. Et je pense que son cheminement à elle, sa pensée, son positionnement à elle, fait avancer nos pensées, et c'est bien que ça soit un peu irrévérencieux, on va dire, et que ça bouscule un peu nos pensées molles, là, quoi.
Et il y a une petite passerelle qui relie l'humour à la poésie brute avec un autre petit bout de femme, c'est Lior Chauve, je prononce bien.
Chauve, ouais.
Qui est israélienne et qui va se déployer le vendredi 16 décembre à 20h30.
Oui, alors je suis content parce qu'on a Otilie B d'un côté, comme on en parlait tout à l'heure, qui est aussi une sacrée bout de femme et qui a un bel univers. Et Lior Chouv, alors c'est époustouflant, j'ai pu la voir. C'est une chanteuse israélienne qui est capable de tout faire, des percussions corporelles, qui joue beaucoup dans la rue. Donc elle a un rapport au public très, très, très particulier. Elle joue du hang, elle joue de la sansa, elle joue du ukulélé, de l'harmonica, des tubes, des plein d'objets rapportés pour nous créer... construire vraiment un univers absolument époustouflant, étonnant. Elle est lumineuse, cette artiste. Elle se donne tout en vibration, en sincérité sur le plateau. Elle est toute seule, mais elle est capable d'allumer une grande, grande salle. C'est pour ça qu'on la mettra sur le grand plateau, pas tout à fait sur le grand plateau, mais au milieu du public, devant la salle, comme on avait fait pour Ideal Club. Et vraiment, venez découvrir, pour les gens qui nous écoutent, venez découvrir Lior Chouv. C'est tellement simple, c'est tellement fort. Elle a une magnifique voix, un peu voilée. Elle nous chante en hébreu, en français, en anglais, et elle nous embarque. Elle nous embarque totalement. J'ai jamais vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une femme avec un charisme aussi marqué. Elle est drôle. Elle a une formation de clown en plus au départ, donc Elle sait être très théâtrale, elle sait nous faire rigoler, elle nous embarque dans la musique de son monde à elle, puisqu'elle voyage aussi beaucoup. C'est un peu à l'instar de Othélie B. C'est un autre univers musical, mais elle s'inspire beaucoup des voyages qu'elle fait, de toutes les rencontres qu'elle fait, et ça envoie. Ça envoie. C'est un grand, grand talent. Partout où elle passe, elle est vraiment, vraiment de grand succès. Donc venez découvrir Lior Chouf. C'est un petit moment de bonheur, à mon avis, et un concert exceptionnel.
Et toute autre chose, on le sait, hein, l'homme est un animal, et les métaphores animales seront eh bien, déployées aussi dans cette petite conférence de toute vérité sur l'existence, qui mêle un peu, qui cause des thématiques de l'amour, de la religion ou du sens de la vie.
Oui, alors là, c'est étonnant. Bon, c'est Sébastien Valignat, c'est quelqu'un qu'on accompagne aussi depuis quelque temps. Il est venu avec 14, qui avait très très bien marché, Tina l'année dernière. Et là, petite conférence de toute vérité sur l'existence. Bah, Sébastien, il s'est emparé d'un texte de Fred Vargas, qui écrit plutôt des romans policiers, mais qui a quand même écrit une chose qui s'appelle Petit traité de toute vérité sur l'existence. Donc, c'est pratiquement le même titre. Où Fred Vargas, son écriture assez gouailleuse, etc., elle veut faire un pied de nez à tous ces espèces de livres, d'art de vivre, de bien-être, etc. Et se propose par effectivement un texte absolument succulent de parler de la religion, du sens de la vie, de l'amour, etc. À travers des digressions incroyables ou des métaphores animales pour résoudre d'un seul coup tous les problèmes de l'humanité et nous sortir du pétrin. Donc c'est un grand programme. C'est évidemment très drôle, le texte est croustillant et Sébastien Valignat, avec son acolyte, s'en empare très très bien. Alors je parle de ça et en même temps bon, la saison est lancée. Les trois représentations qui auraient lieu à Badin sont déjà pleines, donc on pense qu'on en rajoutera un petit peu. On va rajouter deux représentations puisque ça se joue à Badin. C'est un tel succès et on est ravis parce que le public, c'est Sébastien Valignat à la compagnie Cassandre, est un peu comme coqueluche de nos spectateurs et il fait un beau travail, donc on est ravis. Ça va être drôle, intelligent et de toute façon succulent.
Et cette téléportation en l'usine Badin, c'est le jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier à 19h. Parlons un peu de la chose commune. Alors là, c'est quoi? C'est du jazz, mais en même temps des faits d'histoire marquants, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est une autre création. On est très content d'avoir ce projet dans notre saison. Alors, c'est David Lescot, la compagnie de Kairos. Alors, David Lescot, qui est auteur, comédien, metteur en scène, musicien, enfin, il y a des gens qui sont doués et sont doués pour tout généralement. Il aime bien les défis. Donc, il s'est dit, le jazz, allier le jazz avec un pan de notre histoire et la commune de Paris, ça s'appelle la chose commune. Ça n'a jamais été fait, c'est complètement imprévisible, c'est un défi. Et comme il aime bien faire les choses de manière hybride et mélanger les genres, il s'est emparé de ça. Et il s'est évidemment accompagné d'Emmanuel Bex, qui est une figure incontestée de l'orgamon et une grande pointure du jazz européen, qui lui s'est entouré de Élise Caron, la chanteuse, Mike Ladd, le slammer américain absolument incroyable, Sylvain Goubert, la batterie, et Géraldine Laurent, saxophoniste. Et donc, c'est vraiment sous forme d'un concert, le côté spontané et brut du concert, plutôt jazz évidemment, pour nous embarquer dans cette commune de Paris, où effectivement on retrouva les grandes figures de Louise Michel, mais aussi d'autres moins connues, d'Elisabeth Dmitriev, Oli Sarrat, qui était le chroniqueur de l'époque. Pour nous parler de l'envie de David, c'était de nous dire, mais cette révolution qui est venue du peuple, hein, qui a été évidemment massacrée et qui s'est finie dans un bain de sang, avait à la fois cette improvisation qu'on peut trouver dans le jazz. Donc c'est pour ça ce mariage, le sens du collectif, le droit à l'erreur, la révolte aussi du jazz et de la Commune de Paris. Donc il lui a trouvé des points communs et il nous embarque dans un concert vraiment où on va plonger dans le pan de l'histoire de cette Commune de Paris en disant, peut-être que ces utopies de l'époque sociale, puisque c'était vraiment une révolution sociale, a sûrement des résonances aujourd'hui dans des périodes de crise où ce qui était revendiqué n'est pas obsolète. Il y a sûrement des choses à s'inspirer. On sait très bien combien c'est important des fois de replonger un peu dans l'histoire et ce qui a été fait, d'où on vient, pour trouver des solutions. Et voilà. Alors c'est le prétexte est là, mais c'est évidemment éminemment musical. Et de très haut niveau. Enfin voilà, vous conviendrez avec moi que c'est inédit d'avoir un concert sur la Commune de Paris. En tous les cas, ça promet, c'est une création et on va pas s'ennuyer et ça va jouer très très bien de la musique, ce qui est fondamental.
Et cette création sera visible et écoutable le mardi 31 janvier à 20h30. Et du jazz, on passe à la musique de chambre.
Et oui, on nous demande de la musique classique, donc on ne peut pas toujours le faire, mais cette fois, effectivement, viendra la chambre philharmonique dirigée par le grand chef d'orchestre Emmanuel Krivine. Donc voilà, c'est du lourd, c'est Richard Strauss, c'est Dvorak, avec une chambre philharmonique qui sera composée de 17 musiciens plutôt avant. Hein, vous savez, ces instruments qu'on voit dans les symphoniques plutôt à l'arrière, derrière les cordes, là ils sont en premier, ils sont remis en valeur. Il y aura une contrebassiste et un violoncelle, voilà, pour nous jouer, interpréter des morceaux, on va dire, assez rares de Dvorak et de Richard Strauss. Et dirait sous la baguette d'Emmanuel Krivine, ça va être exceptionnel, évidemment. Donc pour les amateurs de musique classique, ça va être un rendez-vous incontournable.
Et ce rendez-vous est en date du vendredi 3 février. Parlons eh bien, du circassien, hein, ça vous tient à cœur, Philippe Ariagno. Et là, eh bien, ça va se déployer à l'espace Le Bocage. On va un peu se téléporter. Mercredi 8, vendredi 10, samedi 11 février, 20h30. Et une autre session le dimanche 12 février à 17h. Vous avez un large choix pour vous déplacer avec vos tout petits pour aller voir Bestias.
Eh oui, Bestias. Alors que les auditeurs retiennent ce nom, Barreau d'Evel et le spectacle Bestias. C'est, on va le dire, on aime bien toute notre saison, mais ça, c'est un véritable coup de cœur. C'est un émerveillement, un ravissement. J'ai peut-être pas forcément les mots. C'est d'une poésie incroyable. Donc c'est un cirque effectivement qui sera sous chapiteau. Et je peux vous dire, le spectateur qui rentre à partir du moment où il rentre dans le chapiteau et jusqu'à la sortie, il est en lévitation, il est en apesanteur. Il se passe quelque chose de magique entre. Alors c'est un rapport homme-animal puisqu'il y a deux chevaux, il y a un corbeau-pie, il y a des envols de perruches et quelque chose de très chamanique. Un rapport très simple avec l'animal, avec des complicités éphémères, furtives. C'est d'une poésie. Il y a de la musique, il y a du chant joué en direct, évidemment de la danse et des ballets très très beaux. On ne sait plus qui est l'homme et l'animal, tant les comportements animaux, des animaux en fait sont proches parfois de l'homme. Le malin, le corbeau-pie est malin comme un singe ou malin comme un homme, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, c'est un moment exceptionnel. On baigne dans une atmosphère. Je sais pas, ouais, c'est un ailleurs, on plonge sur une planète, c'est juste magnifique. Et on recevra ce spectacle dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque, comme un autre spectacle dont je peux parler, comme ça, c'est un peu sur le cirque, qui s'appelle Santa Madera, que nous recevrons aussi dans la saison. Et là, qui est un duo sur le plateau du théâtre, avec les spectateurs autour, tout autour, et un duo magnifique qui sont, alors j'adore cette définition, comme deux hirondelles, tantôt loquaces, tantôt silencieuses, qui se partagent l'infini du ciel et le même au vent. C'est une phrase de René Char, dont les artistes se sont emparés pour nous parler de cette roue-cire, cet agrès, cette grande roue d'acier qui s'empare, qui manipule avec les mains et les pieds. Et c'est très très beau, c'est deux espèces de frères complices ou ennemis, dans une lutte de pouvoir, une espèce de jeu archaïque entre eux, qui dessine l'espace avec ses trous, qui divise le temps aussi. C'est complètement hypnotique. Et ça sera aussi dans la Biennale internationale des arts du cirque. Donc deux rendez-vous cirque absolument exceptionnels. Évidemment, Bestia, c'est le coup de cœur de la saison, mais Santa Madera, sur une plus petite forme sur notre plateau, est aussi un bijou.
Et le public jeune n'est pas en reste, hein, aussi avec Super L par le théâtre de l'Articule. Et là, on se redéploie du côté de l'usine Badin. Ce sera le mardi 28 février, mercredi 1er mars à 18h.
Oui, bah là, évidemment, nous, on a des jeunes publics et Super L, le spectacle Super L, c'est un spectacle pour les plus petits, donc puisque c'est à partir de 3 ou 4 ans, et ça nous raconte l'histoire d'une petite fille. Alors, le décor, c'est un livre en pop-up qui s'ouvre, vous savez, qui fait des décors d'abord de son appartement, après de sa maison un peu plus loin, puis après son quartier, puis après toute la ville, et qui nous parle de cette petite fille, Super L, qui finalement, dans sa cape de Super L, va lui permettre on va dire, d'habiter un personnage qui lui permette comment dire, de se construire, de grandir dans la vie, malgré toutes les épreuves, dont la maladie de sa maman. Voilà, et qui, à travers ce costume de super-héros, va pouvoir surpasser tous ses malheurs possibles et puis surtout grandir dans la vie. Donc c'est très très beau, c'est très visuel également, et ça s'adresse aux petits. Et ce que je veux dire, ce qui est très important quand on met des âges, 4 ans, 7 ans, 6 ans, c'est une indication, c'est pour les gens, pour que les gamins, pour que les parents ne viennent pas avec des enfants de 6 ans quand on met 10 ans, parce que ou c'est trop long pour les petits, ou les thèmes sont peut-être un peu compliqués. Donc, c'est bien de respecter ces trucs-là. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est pour les petits. C'est à partir des grands. Mais pour nous, c'est génial. On prend des spectacles que l'on adore nous-mêmes comme adultes, grands, parce que c'est hyper bien fait. La production est sublime. Voilà, c'est bien joué. C'est inventif et créatif. Donc, tout le monde en prend pour son grade et on est ravis, on est touchés de toute façon, grand ou petit.
Grand petit aussi, la tragédie dansée de retour à Beratam, ce sera le samedi 4 mars, 20h30.
Oui, ben voilà, on a une certaine fidélité avec le ballet Prêt-le-Jocage. On est très content de retour à Beratam, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas invité un grand ballet, puisqu'ils sont plus de 17 sur danseurs et comédiens. On a appelé ça une tragédie dansée parce que c'est effectivement une tragédie dansée où il y a une espèce comme un chœur dans une tragédie antique, un chœur qui parle, qui dit un texte et les danseurs dansent sur ces mots, sont portés par ces mots pour nous raconter une histoire, une tragédie vraiment, hein, puisque c'est le retour d'un homme dans son pays qui a été traversé par une guerre civile et finalement il ne reconnaît plus rien, on ne le reconnaît plus lui, il vient chercher Katia, son amoureuse à l'époque, et tout ce qui s'est passé évidemment, ce qu'il retrouve n'est pas du tout ce qu'il imaginait, donc c'est une chose assez sombre, mais qu'est-ce que c'est sublime au niveau de la danse. On connaît la qualité des danseurs de chez Prêt-le-Jocage, cette façon d'être à l'unisson, cette force qui est dégagée par tous les danseurs, portée encore une fois par ces mots. Voilà, c'est pas le thème est grave, mais quel bonheur, quel tragédie. On est ressorti bouleversé de ce spectacle et on s'est dit ben oui, c'est un tournant dans la carrière, on va dire, de Prêt-le-Jocage, où on retrouve toutes les forces de ce qui fait ces ballets et la danse de Prêt-le-Jocage. Voilà, c'est à voir absolument et c'est une grande grande forme, hein, puisque c'était pour le Palais des Papes dans la cour d'Avignon et au Théâtre National de Chaillot où on l'a vu, donc un très grand plateau au Théâtre La Passerelle.
Autre expérience à vivre en date du mardi 7, mercredi 8 mars à 19h, un concert narratif sous casque. Et là, on rejoint un peu l'univers radiophonique.
Oui, alors ça c'est aussi, je disais tout à l'heure, quand on essayait de varier un maximum les formes de confrontation artistique qu'on peut avoir avec les publics. Dambé, un exemple typique, puisqu'effectivement les spectateurs, on sera tous sur le plateau, 160 spectateurs à chaque représentation, avec un casque autour des sur les oreilles, et une comédienne qui nous plonge avec deux musiciens qui jouent en live, donc on entend tout dans le casque, hein, c'est absolument somptueux. C'est une plongée, on nous met dans une bulle pour nous parler de cette histoire extraordinaire de Aya Sissoko. Donc c'est un texte qui a été écrit par Aya Sissoko et Marie Desplechin. Et Aya Sissoko, c'est cette jeune fille qui, à l'âge de 8, qui est d'origine malienne, qui vit dans un quartier populaire Ménilmontant à Paris, qui a plutôt une enfance heureuse avec son papa et sa maman et ses trois frères et sœurs, et dont la vie va basculer à l'âge de 8 ans quand son père et sa petite sœur meurt dans l'incendie criminel de son immeuble à Paris, l'immeuble de la rue Tlemcen, tristement célèbre, où effectivement un certain nombre de personnes vont mourir brûlées vives, et dont une partie de sa famille. Et c'est là qu'elle va commencer, dès l'âge de 8 ans, à lutter contre le drokutu, le malheur dans le langage malinké. Sa maman, qui aurait dû retourner au Mali selon la tradition malienne, reste à Paris et décide d'éduquer ses enfants dans la tradition du dambé, qui veut dire dignité en langage malinké aussi. Et en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va petit à petit, va croiser la boxe sur sa route, va devenir championne du monde de boxe anglaise ou boxe française à 23 ans, puis à 28 ans, championne du monde de boxe anglaise. Voilà, c'est un espèce de parcours de vie, une histoire absolument incroyable, une ode à la vie finalement, à cette force vitale qui fait que, waouh, on ressort à la fois bouleversé, chaviré par tant de drames finalement, mais aussi tant de force de vivre pour s'en sortir, et ça fait vraiment du bien, quoi. Ça rebooste.
Une relecture, hein, comme chaque année au Théâtre La Passerelle de grands auteurs. Là, c'est Victor Hugo et cette relecture des Misérables. Sauf que là, c'est plutôt accessible pour un jeune public aussi à partir de 10 ans, malgré la dureté du sujet. Là aussi, on essaie un peu de tendre une canne à pêche, si on pourrait dire, pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'intéresser aussi à cette grande littérature, avec Les Misérables, donc, de la compagnie Cariatide.
Oui, c'est une compagnie qu'on aime bien, qui était déjà venue il y a quelques années avec Madame Bovary. Donc, il s'empare effectivement de grands textes classiques. Donc, cette fois, Les Misérables de Victor Hugo, que tout le monde connaît, bien sûr, où on va plonger dans cette vie de tous les personnages, de Jean Valjean, bien sûr, passant par Cosette, Gavroche, puisque tout se finira sur les barricades. C'est quand même un roman de Victor Hugo, une épopée complètement épique, lyrique, et l'histoire d'une révolution aussi. Donc, la compagnie Cariatide s'empare de ça. Alors, ils ont une façon très particulière de s'en emparer, puisqu'ils travaillent qu'avec des poupées, que ce soit des petites poupées Barbie, des poupées chinées à droite et à gauche. Voilà, tout est fabriqué, ça se passe sur une table, c'est une petite jauge, hein, pour nous raconter cette grande aventure des Misérables. C'est somptueux, mais vraiment somptueux pour les petits et grands. Venez voir, c'est malin d'inventivité, c'est très créatif. Les deux interprètes qui manipulent, jouent en même temps, sont extrêmement vivantes. C'est juste génial, hein. Vraiment, je pourrais le dire pratiquement tous les spectacles. Mais voilà, il y a des choses qui sont plus atypiques que d'autres, hein, quand on raconte les Misérables à travers des poupées qu'on manipule, etc. Sur une table tournante, basculante, ça crée des images incroyables. Mais c'est vraiment émouvant, quoi. C'est fort, ça. Ça a le souffle de ce grand roman de Victor Hugo. Et voilà, c'est pour ceux qui veulent replonger dans cette œuvre-là, petit ou grand, courez.
Et ce sera le samedi 25, lundi 27 et mardi 28 mars, 19h. Passons à la soucoupe et le perroquet. On virevolte aussi par-delà la galaxie via eh bien, Paul Pascot qui signe le texte et la mise en scène. Et c'est côté cours, jeudi 30 vendredi, et vendredi 31 mars à 19h, à ne pas louper ça aussi.
Oui, j'en ai très content parce qu'on a vu ça l'année dernière, et La Soucoupe et le Perroquet. Donc c'est le premier spectacle d'un jeune metteur en scène, auteur aussi, puisqu'il a écrit le texte, qui s'appelle Paul Pascot, et il s'est inspiré en fait, le thème de son spectacle, il s'est inspiré d'une émission qui s'appelait Striptease, que tout le monde a vu peut-être une fois dans sa vie, qui était sur France 3, et je crois que c'est une chose qu'il avait vue en 1993, et qui racontait l'histoire d'un homme qui construit une soucoupe volante dans son jardin, qui vivait chez sa mère en fait, et qui construisait une soucoupe volante de manière en bois bionique, alors quelque chose de très très sérieux évidemment, pour partir, être prêt au cas où les extraterrestres viendraient et peut-être partir à leur rencontre. Donc il a un peu changé ça, c'est plus la mère et son fils, mais le couple Corinne et Didier. Et alors j'adore ce travail. Le texte est magnifique, il est très très bien écrit de Paul, et qui nous plonge dans cet univers assez fou, assez poétique en même temps. C'est ce qui l'a intéressé d'ailleurs, c'est cette folie de ce fait divers, et à la fois ce côté très poétique de pouvoir imaginer quelqu'un construire une soucoupe volante très sérieusement dans son jardin. Donc c'est un espèce de duo incroyable où qui a un langage bien à lui, qui dit pas tout pour ne pas tout gâcher de cette aventure. Corinne le soutient dans son projet, mais et en même temps, elle a son perroquet sec dans une boîte à chaussures qui est mort depuis 17 ans qu'elle garde. Elle plante des choux. Enfin, il y a un côté très surréaliste, très absurde, très drôle et très beckettien, des personnages comme ça qui flottent et qui sont voilà, qui ont une relation incroyable. C'est très bien joué. La comédienne Florine Mullard est exceptionnelle. C'est une jeune comédienne, mais elle dégage, elle rayonne quand elle s'adresse autant au personnage à côté d'elle ou au public. Et Paul Pascot aussi, voilà. C'est très drôle, très touchant. C'est une mise en scène qui, à mon avis, augure d'un très beau travail, d'un beau parcours de ce jeune comédien, puisqu'il est comédien aussi, Paul Pascot, et metteur en scène. Et voilà, on est ravis de défendre ce projet.
Autre curiosité, c'est Dark Circus de Stéréoptique, lundi 3, mardi 4 et mardi 5 avril à 19h. Un concert dessiné dès 8 ans, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est toujours. On essaie toujours de trouver des sous-titres parce que pour donner quelques pistes ou quelques indications. Alors, Stéréoptique, c'est des gens qu'on a déjà reçus, hein, c'est Jean-Baptiste Bayet et Romain Brémond. Qui était venu. Alors ils font effectivement, c'est un espèce de dispositif où lui, il y a un musicien, Jean-Baptiste Maillet, hein, homme orchestre un peu, et puis Romain Brémond de l'autre côté. Ils sont chaque côté de la scène. En face de nous, il y a un écran. Et en fait, c'est un film qui est réalisé musicalement et visuellement par les images, tout en direct. C'est une espèce de pied de nez à la technologie sophistiquée qu'on peut avoir maintenant. Tout est fait en direct. Ils manipulent du sable, de l'encre. Ils font des découpes. Il y a des décors roulants qu'on les voit manipuler, en fait, et pour nous raconter l'histoire d'un cirque où le slogan serait Venez nombreux, devenez malheureux. Bon, c'est le genre de cirque, on n'a pas forcément envie d'y aller. Ils se sont associés avec PEF, quand même, le grand auteur de livres pour la jeunesse, Le Prince de Motordu, tout le monde connaît, qui leur a écrit un scénario et a fait un film d'animation très beau sur un cirque, effectivement, très noir et blanc, où tout se passe de manière assez dark, puisque le titre s'appelle Dark Circus, où la trapéziste va s'écraser au sol, où le dompteur va peut-être être dévoré par le lion, où le lanceur de couteau est maladroit et va peut-être planter son partenaire. Voilà, toute une histoire jusqu'à l'émergence d'un personnage, tiens, comme par hasard, qui a un nez rouge et qui va redonner de la couleur, de l'élan, quelque chose de très beau de ce cirque. C'est subtil, très très fin visuellement, très plastique évidemment, musicalement c'est magnifique. Voilà, c'est des choses assez atypiques. Il n'y a qu'eux qui font ça en France, voire je sais pas si c'est pas dans le monde. Mais voilà, c'est du bricolage de génie, des très beaux dessins réalisés en direct. C'est magique de voir ça, cette création en direct sous nos yeux.
Et après Victor Hugo, pardon, notre grand auteur, hein, Shakespeare avec Othello, variation pour trois acteurs. Et là, c'est dans le cadre des Excentrés. Ce sera le lundi 24 avril à Saint-Bonnet, le mercredi 26 à Tallard, le vendredi 28 à Chorges, le samedi 29 à Embrun et le dimanche 30 avril à Vesnes. C'est la compagnie du Zieu, c'est ça.
Oui, compagnie du Zieu. Alors ça, on aime bien ce genre de nous de voir des compagnies qui s'emparent de textes classiques, donc ici Othello de Shakespeare, comme l'avait fait le collectif La Palmera qu'on avait reçu avec un Andromaque qu'on avait fait tourner en excentré, qui avait beaucoup beaucoup plu, extrêmement bien marché auprès des publics. Voilà, donc c'est aussi Othello, la pièce de Shakespeare, une variation pour trois acteurs. Puisqu'il ne joue que trois personnages de cette pièce, évidemment Othello, Desdémone et j'ai oublié l'autre, le père de Desdémone, pour nous raconter cette histoire d'Othello. Donc rapidement, c'est Othello qui est de Chypre, donc cette petite île plutôt assez pauvre, mais qui est assez puissante. Et lui, Othello, est le chef des armées, il sert les intérêts de la Venise marchande, etc. Tant qu'il est dans ce rôle-là, c'est très bien, mais dès qu'il veut épouser Desdémone, la fille d'un marchand riche, et qui est tout près du pouvoir, là ça devient l'étranger, un peu voilà, l'étranger, celui qu'on veut pas, celui qui vient nous manger le pain des Vénitiens, etc. Donc ça plonge le spectateur dans cette histoire entre marchands, la force du marchand finalement, la peur de l'étranger, de l'autre, on replonge dans ça, et ces trois acteurs qui interprètent de manière mais vraiment vraiment stratosphérique, c'est très beau, une dextérité au milieu de nous. Dans une formule très légère, voilà, c'est une revisitation ou revisiter Shakespeare de manière très forte en isolant les personnages principaux de la pièce.
Nous avions rencontré il y a quelque temps de cela, lors d'une précédente édition de Tous dehors enfin, le bonimenteur Sébastien Barrier, et nous en gardons un très bon souvenir et il nous revient. Et là, c'est comme vous le signalez, hein, Philippe Ariagno, une co-réalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, avec lequel vous travaillez et d'autres structures, bien sûr, avec Chunky Charcoal.
Chunky Charcoal. Alors oui, les gens vont s'en rappeler quand je dis Sébastien Barrier, et si je dis savoir enfin qui nous buvons, 7 heures avec Sébastien Barrier, ça ne s'oublie pas. Ça a été un des spectacles l'année dernière qui a marqué le plus les spectateurs. Donc c'était 300 spectateurs, parce que c'était une petite jauge. Mais quand même, ils vont, je pense, s'en souvenir toute leur vie. Alors évidemment, Sébastien Barrier, qui est bonimenteur, qui est un espèce de génie des mots, manipulateur des mots, quelqu'un d'extrêmement sensible, assez mégalo, narcissique aussi, il faut le dire, a du mal à fermer sa bouche, comme il l'a dit lui-même. Mais cette fois, il est plus raisonnable. Ce ne sera pas un spectacle de secteur, un spectacle possiblement sans fin. Non, ça sera 1 heure et demie, Chunky Charcoal. Et cette fois, en plus, Sébastien, il n'est pas tout seul pour parler de lui. Il s'est associé avec deux copains. Je dis deux copains parce que c'est fondamental pour lui, qui sont aussi deux artistes. Donc, Bonne Maison Fit, qui est dessinateur graphiste, et Nicolas Lafourès, qui est musicien. Et là, il nous propose une espèce de. Un spectacle complètement dingue, où évidemment les mots sont dits, slamés, parlés, chantés, et cette fois écrits, puisque le fond du décor est une grande fresque, une grande page blanche de 9 mètres par 3, sur lequel le graphiste dessinateur Bonne Maison Fit essaie de rendre visible la pensée labyrinthique, le dédale vertigineux de mots que nous assène Sébastien Barrier, qui peut citer de la poésie, parler d'anecdotes de vie, et parler notamment de toutes les pertes qu'on a dans la vie, alors jusqu'au la perte de la vie au bout du compte, mais surtout ça peut être la perte de son chat, de son stylo, de son pucelage, de sa boulette, comme il dit lui-même. Voilà, donc toutes ces pertes-là qui marquent la vie, qui nous font faire des choix dans nos vies, toutes ces addictions comme autant de planètes que l'on peut croiser, et on sait combien Sébastien Barrier peut avoir quelques addictions, qu'elles soient. C'est juste une plongée dans un spectacle, une performance sonore, visuelle, extrêmement poétique, avec les sons de guitare de Nicolas Lafourès, qui est à la fois lunaire, très instinctif, brut. C'est très très beau. Et effectivement, vous le soulignez, c'est dans les abonnements de La Passerelle, mais ça sera joué à Château-Arnoux, puisque Elodie Prel, la directrice du Théâtre du Rance, avait aussi envie de faire ce spectacle. Donc on s'est dit, on a tous envie de le faire, donc on va pas le faire chez toi, chez moi. On essaie le plateau qui correspond le mieux à cette proposition. Bah, nous, côté course, ça rentre au chausse-pied. Sur le grand plateau, c'est pas possible. Donc on va le mettre chez toi. Le plateau est parfait pour cette proposition. Donc on l'a mis dans nos abonnements. Donc les gens s'abonnent normalement, comme si c'était un spectacle de la saison. Mais ça sera joué à Château-Arnoux. Il y a une navette qui amènera les gens. Voilà, c'est une co-réalisation. On est très fiers de ça, parce que c'est jamais facile travailler entre structures et de s'entendre, avoir des affinités artistiques. C'est le premier rendez-vous. Il y en aura un deuxième dans la saison avec La Mouette du collectif Cobalt, où cette fois c'est dans les abonnements du Théâtre du Rance et jouer à La Passerelle, voilà, pour ce collectif qui avait joué le Misanthrope l'année dernière, qui s'empare cette fois de La Mouette, ce grand classique de Tchekhov. Donc voilà, c'est une première des allers-retours entre ce théâtre. On est ravis et c'est sûrement que le début.
Et pour ce qui est de La Mouette, ce sera le jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mai. À 20h30, on termine avec Linéa, avec la compagnie Sans Dessus Dessous, que nous retrouvons, si je ne m'abuse, aussi.
Oui, alors ça sera sur le grand plateau. Voilà, c'est un jeune public, tout public. Hein. C'est pareil, c'est un duo qui manipule des objets, qui sont manipulateurs d'objets, jongleurs évidemment, et qui cette fois travaille avec la corde. Et ça nous fait beaucoup penser, vous vous rappelez, ce petit personnage à Linéa, qui était de l'italien, dont j'ai oublié le nom, mais ce petit personnage qui se baladait sur une ligne et qui interpellait son dessinateur en faisant des creux et en lui donnant des choses. C'est un peu ça, ils manipulent les cordes, les courtes, longues, etc. C'est toute leur... C'est vraiment un objet qui manipule merveilleusement, qui dessine l'espace, le temps. C'est très très beau, c'est pour tout public, et effectivement ça sera le dernier spectacle dans nos murs.
Et nous aurons le temps de nous revoir à Philippe Ariagno pour annoncer Tous dehors enfin, qui va se déployer le 2, 3 et 4 juin. Peut-être en dire quelques mots sur les spectacles que nous pourrons voir au gré des rues de la capitale douce.
Oui, alors pour le moment, vous savez, la saison n'est pas bouclée, non seulement parce que c'est cet été que je vois beaucoup de choses, même si j'ai déjà quelques idées et pris quelques options sur des compagnies vues l'année dernière. Voilà, puis il y a aussi ce doute quant aux finances, hein, ça, sans finances, c'est compliqué de faire un festival aussi grand et de le monter en puissance. Et avant le Tous dehors, moi, il y avait aussi tous les Curieux Nature, on a parlé de Sur ton dos aussi, mais il y a aussi le groupe Zur qui vient bientôt en repérage. Le groupe Zur, Zone d'Utopie Reconstituée, qui est une sorte de collectif qui mélange les plasticiens, les acteurs, les danseurs. Ils travaillent sur le cinéma, sur des projections, sur des supports incroyables. Ça peut être mouvant ou fixe, voilà, qui vont venir faire un geste d'un curieux de nature sûrement au mois de mai dans la saison de l'année dernière. Et puis un curieux de nature, Silva, qui sera joué justement dans le Festival Tous dehors dont on parle, dans un parcours dans Charance où on partira à la rencontre de personnages mi-homme, mi-animal. Les danseurs acrobates et danseuses aériennes de Fanny Soriano de la compagnie s'inspirent beaucoup des richesses naturelles, végétales, minérales autour pour créer un univers assez fantastique, propre à la métamorphose tout en restant humain. Voilà, c'est très beau. Donc il y a plein de rendez-vous en extérieur et j'espère que je pourrai vous donner la programmation comme d'habitude en janvier et février de Tous dehors où, comme on le disait tout à l'heure, c'est un premier petit anniversaire de 5e édition. Ça se célèbre.
On se reverra, Philippe Ariagno, à ce moment-là, pour faire une spéciale Tous dehors. Enfin, merci beaucoup de vous être arrêté au micro de Fréquence Mistral et de nous avoir, une fois de plus, donné l'envie d'être curieux, hein, tout simplement, et de nature, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, à très vite sur nos ondes.
Oui, merci à vous. C'est toujours, de toute façon, important pour nous de communiquer ce que je dis toujours au moment de la présentation de saison, le travail d'un an et demi de recherche de spectacles, de cohérence entre les spectacles qu'on invite dans ce spectacle. Une fois qu'on le donne, cette saison ne nous appartient plus, elle appartient aux spectateurs, au public potentiel. Donc, venez découvrir, soyez audacieux, ça c'est très important. Venez, laissez-vous surprendre. Je le dis toujours, essayez de convaincre des gens qui ne viennent pas encore au théâtre. Alors, venir leur montrer quelques spectacles, comme disait un artiste, mais de toute façon l'art, le beau, la beauté fait du bien dans nos vies, donc ne vous en privez pas. Voilà, la saison est à vous, venez nombreux.